Le monde aujourd'hui, VOA Afrique au micro, Idrissa Seydoudia, bonjour. Dans cette édition, le président républicain Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden battent campagne dans l'État clé de Floride jeudi, à 5 jours du scrutin du 3 novembre. Une page spéciale dans moins de 5 minutes avec Jean-Roger Bion et Jacques Aristide. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, qui ne s'était pas exprimé publiquement depuis son arrestation en 2011, est sorti de sa réserve jeudi pour appeler au dialogue, alors que beaucoup d'Ivoiriens redoutent de nouvelles violences autour du scrutin de samedi, le président Alassane Ouattara briguant un troisième mandat controversé face à une opposition qui prône la désobéissance civile. Depuis 3 mois, violences et affrontements intercommunautaires ont fait une trentaine de morts dans le pays. Ce qui nous attend, c'est la catastrophe. C'est pour ça que je parle, pour qu'on sache que je ne suis pas d'accord pour aller pieds et poings liés à la catastrophe. Il faut discuter, a déclaré M. Gbagbo sur TV5 Monde. Il attend en Belgique un éventuel procès en appel devant la CPI après son acquittement en première instance de crimes contre l'humanité. Par ailleurs, le convoi de Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence ivoirienne, a été mitraillé par des inconnus à l'arme automatique près d'Agbaou, au nord de l'Abidjan, où il venait de tenir un meeting. Personne n'a été touché. Monsieur Hachi va bien, a-t-on souligné. La Mauritanie s'est déclarée indignée par l'acte terroriste barbare meurtrier dans une église à Nice, en France. Nouakchott a condamné cette opération odieuse comme toute atteinte ou insulte des religions, toute agression contre les innocents au nom de la religion. Un homme armé d'un couteau a tué en quelques minutes jeudi 3 personnes dans l'église Notre-Dame de Nice en criant « Allahu Akbar, Dieu est le plus grand » en arabe. La Tunisie, pays d'origine, dit-on, du terroriste présumé, a aussi condamné fermement l'attaque et annoncé l'ouverture d'une enquête. D'autres réactions dans quelques instants. Une nouvelle pirogue partie du Sénégal a fait naufrage jeudi au large de la Mauritanie selon une source hospitalière à Ouagadougou et une source sécuritaire mauritanienne. Les gardes-côtes mauritaniens ont secouru jeudi 24 migrants illégaux dans le naufrage d'une pirogue qui se dirigeait vers les îles Canaries, tandis que 36 ont perdu la vie, a indiqué la source hospitalière. Leurs corps n'ont toutefois pas été retrouvés, mais la pirogue comptait 60 personnes à bord, selon la même source. Au moins 140 personnes sont mortes dans le naufrage d'une embarcation de migrants la semaine dernière au large du Sénégal, la pire catastrophe de ce type en 2020, a indiqué jeudi l'Organisation internationale pour les migrations, citant des communautés locales qui estiment à environ 200 le nombre de migrants à bord. Sans préciser leur nombre, les autorités sénégalaises avaient annoncé un bilan d'au moins 10 morts pour une soixantaine de personnes secourues lors de ce naufrage qui a provoqué une forte émotion dans ce pays où, par ailleurs, 6 corps ont été repêchés près de Dakar mercredi soir. La pandémie de coronavirus continue de s'aggraver à travers le monde, en témoigne le reconfinement généralisé entré en vigueur vendredi en France, ainsi que le record de 90 000 cas positifs en 24 heures atteints aux États-Unis jeudi, selon l'université Johns Hopkins. Sur la même journée, 1021 personnes sont décédées du COVID-19 dans ce pays, le plus gravement touché par le virus, avec plus de 228 600 décès, suivis du Brésil, de l'Inde et du Mexique. En Europe, les pays se barricadent les uns après les autres pour faire face à une deuxième vague meurtrière, comme l'Espagne, où 5 régions, dont celle de Madrid, bouclent leur territoire vendredi. Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie, Idrissa Seydoudia. La suite de nos informations, tout d'abord, la présidentielle américaine du 3 novembre. Le président républicain Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden ont fait campagne jeudi en Floride. Deux styles de candidats, deux stratégies de campagne, deux approches radicalement différentes face à l'épidémie de coronavirus. Les habitants du Sunshine State ont assisté à un concentré de cette campagne 2020. Le point avec Jean-Roger Bion.
Dans cinq jours, nous allons gagner la Floride, nous allons gagner 4 ans de plus, a lancé depuis Tampa le président américain, coiffé d'une casquette rouge, Make America Great Again. Il a vanté la hausse annoncée quelques heures plus tôt de 33,1% du produit intérieur brut au troisième trimestre. Aucun pays n'a de chiffres comme ceux-là, a-t-il martelé. Donald Trump était accompagné de sa femme, Melania, qui a fait une brève allocution. Une voix pour le président Trump est une voix pour une Amérique meilleure, a-t-elle lancé. Sillonnant les États-Unis à un rythme intense, le président américain a été forcé de reporter à lundi un autre meeting prévu jeudi soir en Caroline du Nord, en cause de fortes rafales de vent. « Je vous aime, la Caroline du Nord, à lundi », a-t-il notamment tweeté. Nettement plus en retrait depuis le début de la campagne, Joe Biden, qui a peu quitté sa petite ville de Wilmington dans le Delaware, met en avant la nécessité de donner l'exemple face à la pandémie du coronavirus. Les meetings de Trump sont des actes ultra-propagateurs. Il propage le virus à travers le pays, a dénoncé l'ancien vice-président américain devant quelques centaines de personnes qui assistaient à ce meeting, en drive-in, assis sur leur voiture ou debout à côté. Porter un masque, respecter les gestes barrières n'est pas une prise de position politique. C'est un devoir patriotique pour l'amour de Dieu, s'est-il exclamé. Il propage en plus la division et la discorde. Nous avons besoin d'un président qui va nous rassembler, a poursuivi l'ex-bras droit de Barack Obama, qui se présente en rassembleur d'une Amérique divisée. Joe Biden a aussi attaqué le bilan économique du président républicain, l'un de ses points forts dans les sondages. Nous avons laissé à Donald Trump une économie solide, a-t-il affirmé. Et comme tout ce dont il a hérité, il l'a dilapidé. Comme Joe Biden dans le Delaware et Donald Trump en Floride, plus de 80 millions d'électeurs américains ont déjà voté par anticipation.
Au-delà de la course à la Maison-Blanche, les élections du 3 novembre comprennent aussi la lutte pour le contrôle du Sénat. La Chambre haute du Congrès américain pourrait aider notamment le vainqueur du scrutin présidentiel à mettre en œuvre son programme. Kane Farabo de la VOA jette un coup d'œil sur un duel sénatorial âprement disputé dans le petit état de l'Iowa. Son reportage est relaté par Jacques Aristide.
En 2016, Donald Trump a remporté l'Iowa avec 9 points d'avance sur sa rivale démocrate d'alors, Hillary Clinton. Dan Zumbach, agriculteur et membre du Sénat de l'Iowa.
Nous l'avons élu pour faire avancer les choses et il fait exactement ce qu'il a dit qu'il ferait.
4 ans plus tard, l'économie agricole de l'Iowa est affectée par la pandémie de Covid-19 et la guerre commerciale. La bataille entre le président Trump et son rival démocrate Joe Biden est jugée serrée dans le petit État. Doug Thompson, agriculteur dans le nord de l'Iowa.
Je pense que ça serait dévastateur si je devais me retrouver avec 4 autres années de l'administration Trump.
L'Iowa pourrait également déterminer si les républicains gardent ou perdent leur faible majorité au Sénat. La sénatrice républicaine Jenny Ernst a tâtonné face à une question sur les prix des produits agricoles lors d'un débat avec sa rivale démocrate, la professionnelle de l'immobilier Teresa Greenfield.
Je pense que vous avez posé une question sur le maïs et cela dépend de ce que sont les entrées, mais probablement environ $5.50.
Eh bien, vous êtes à environ 2 dollars de moins, je pense.
Une question que la candidate Greenfield a pu répondre.
Eh bien, un boisseau de maïs se vend aujourd'hui à environ $3.68 ou $3.69.
L'agriculteur Dan Zumbach est d'avis que le débat était injuste envers Mme Ernst.
Ils ont fait beaucoup de bruit pour rien. La sénatrice Ernest connaît l'agriculture.
L'agriculteur Doug Thompson soutient Madame Greenfield et affirme que la guerre commerciale de l'administration Trump avec la Chine, soutenue par Madame Ernst, a fait baisser les prix des céréales et lui a fait perdre de l'argent.
Son succès ou son échec sera basé sur le succès ou l'échec de Trump dans l'Iowa.
Les paiements du gouvernement pour compenser la perte de revenus des agriculteurs ne l'ont pas rassuré.
L'agriculture a été dévastée, même si nous avons été payés. Il y a encore beaucoup de stress ici, beaucoup de stress sur les bilans, si vous voulez.
L'Iowa fait partie des États américains gros producteurs de maïs, de porc et d'œufs. D'après les sondages, l'économie de l'État est le principal enjeu pour les électeurs. Des analystes croient que les démocrates pourraient augmenter leur nombre au Sénat. Le politologue Timothy Hagel de l'Université de l'Iowa.
Il y a environ une demi-douzaine de courses dans lesquelles les républicains apparaissent vulnérables cette fois. L'Iowa semble être l'un de ces États.
Alors que la pandémie se poursuit, le vote anticipé dans l'Iowa a connu une hausse de 97% par rapport à la même période en 2016.
Dans le reste de l'actualité, au Cameroun, l'examen d'une plainte du leader de l'opposition Maurice Kamto, qui s'estime séquestré à domicile sans procédure judiciaire depuis plus de 5 semaines, a été jeudi à nouveau renvoyé au 12 novembre par le tribunal de Yaoundé. Nous retrouvons Jacques Aristide.
Maurice Kamto poursuit l'État pour voie de fait administrative et affirme qu'il est séquestré chez lui contre son gré depuis le 21 septembre dernier pour avoir appelé à des marches pacifiques contre le régime de Paul Biya au pouvoir depuis 38 ans. Le deuxième renvoi, après le premier, il y a environ 2 semaines, intervient alors que M. Kamto est toujours reclus dans sa maison, entouré par des forces policières. Il n'y a hélas aucune évolution. Mon domicile est toujours encerclé par des policiers et des gendarmes. Et j'y suis depuis plus d'un mois maintenant, a-t-il affirmé hier. Au tribunal, un de ses avocats, maître Emmanuel Lassim, s'est offusqué de la situation actuelle de son client, privé de liberté, dit-il, sans aucun mandat de justice, sans aucun acte d'administration. Aucun des représentants de l'État présents à l'audience n'a réagi à cette accusation. En saisissant le tribunal, le principal dirigeant d'opposition espère que le juge obligera les autorités à mettre un terme à cette situation. Un représentant de l'État a contesté la compétence du tribunal de première instance qui juge cette affaire, demandant à cette cour de se dessaisir de la procédure. Les avocats de M. Kamto ont promis de réagir par écrit. L'ONU a déjà demandé au Cameroun de le libérer.
En Tanzanie, le principal candidat de l'opposition à la présidentielle, Tundu Lissu, a rejeté jeudi les résultats des scrutins présidentiels et législatifs de mercredi, dont les premiers chiffres donnent une large avance au président sortant John Magufuli et à son parti. Le point avec Nani Talani.
Candidat du principal parti d'opposition Chadema, Tundu Lissu a qualifié ces scrutins d'imposture totale, évoquant par avance des résultats illégitimes. Les premiers chiffres partiels de la présidentielle mettent en tête le chef de l'État sortant John Magufuli, 62 ans, avec environ 85% des voix dans 32 circonscriptions sur un total de 264. Nous n'acceptons et ne reconnaissons aucun résultat issu de ce processus mené par un gang qui a décidé de rester au pouvoir coûte que coûte, a accusé M. Lissou qui a su revigorer une opposition largement étouffée ces dernières années. L'ambassade américaine en Tanzanie a fait état jeudi d'assertions crédibles concernant d'importantes fraudes et intimidations, estimant qu'il y a de sérieux doutes sur la crédibilité des résultats annoncés. La Tanzanie n'autorise pas de contestation en justice du résultat de la présidentielle, procédure pourtant possible pour les législatives.
L'attaque au couteau qui a fait 3 morts jeudi dans une église de Nice, dans le sud-est de la France, a suscité une indignation dans le monde. John Lindon.
Le président américain Donald Trump a exprimé hier sa solidarité avec la France, dénonçant des attaques terroristes inacceptables. L'Amérique est aux côtés de notre plus vieil allié dans ce combat, a-t-il tweeté. Le premier ministre britannique Boris Johnson s'est dit sous le choc après cette attaque barbare dans un tweet en français. La chancelière allemande Angela Merkel a quant à elle exprimé la solidarité de l'Allemagne avec la France, se disant profondément bouleversée par ces meurtres cruels. Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a dénoncé une attaque vile qui cependant n'ébranle pas le front commun pour la défense des valeurs de liberté et de paix. Nos certitudes sont plus fortes que le fanatisme, la haine et la terreur, a-t-il écrit sur Twitter. Le Vatican a affirmé que le terrorisme et la violence ne peuvent jamais être acceptés. Quant au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, il a condamné fermement ce qu'il a qualifié d'attaque odieuse. De nombreux autres leaders du monde ont vivement condamné cette attaque.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. La demi-finale retour de la Ligue des champions CAF entre le Zamalek d'Égypte et le Raja Casablanca ainsi que la finale ont été reportées sine die, a déclaré hier la Confédération africaine de football. De nombreux joueurs du Raja ont été contrôlés positifs au Covid-19, ne laissant que 10 joueurs en forme, a indiqué un responsable du club de Casablanca. Lors du match aller, le Zamalek s'est imposé 1-0 sur le terrain du Raja Casablanca. Le retour avait déjà été repoussé au 1er novembre. La CAF a également annoncé que la finale entre le Zamalek ou le Raja et les Égyptiens d'Al-Ahly, prévue le 6 novembre, a également été reportée sans préciser de date. Victor Osimhen fait son retour en sélection. Le nouvel attaquant de Naples est présent sur la liste des 24 joueurs convoqués par le sélectionneur des Super Eagles pour la double confrontation face à la Sierra Leone les 13 et 17 novembre lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Osimhen était absent ce mois-ci pour les matchs amicaux contre l'Algérie et la Tunisie. L'attaquant de Galatasaray, Peter Etebo, signe aussi son retour. Moses Simon du FC Nantes est aussi présent sur la liste de Guenotro. Pour le reste, on retrouve les cadors comme Moussa, Chukwueze, Alex Iwobi, Ignacio, Ekong et Balogun. Des nouvelles de la NBA, les Houston Rockets sont sur le point d'enrôler Stephen Silas, entraîneur adjoint des Dallas Mavericks, pour prendre les rênes de l'équipe menée par la star James Harden. Une officialisation du transfert va bientôt intervenir. En attendant, le propriétaire des Mavs, Mark Cuban, n'a pas attendu pour saluer l'opportunité offerte au technicien qui assistait depuis 2 saisons, le coach texan Rick Carlix. Félicitations, coach Silas, a-t-il tweeté. Silas, fils de l'ancien joueur et entraîneur Paul Silas, va succéder à Mike D'Antoni, qui n'a pas souhaité poursuivre l'aventure à Houston après 5 saisons. À 46 ans, il se voit offrir son premier poste d'entraîneur en chef après 20 saisons accumulées les différents postes d'adjoint à la Nouvelle-Orléans, Cleveland, Washington, Golden State et Charlotte avant d'officier à Dallas.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, après la surprise de mercredi avec la dissolution du gouvernement et l'éviction de la présidente du Conseil économique, social et environnemental, les avis sont partagés. Les uns estiment que le moment n'est pas propice, tandis que d'autres se projettent déjà sur l'avenir en espérant un gouvernement plus performant. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Covid-19, inondation, immigration clandestine, pour beaucoup de Sénégalais, les urgences du moment devraient être la priorité du président Macky Sall. C'est l'avis de Bintou Koli. Elle pense que le remaniement pouvait attendre.
Ces derniers temps, on a vu qu'il y avait un bateau qui a coulé. Et je pense que les Sénégalais, jusqu'à présent, attendent qu'il sorte pour dire quelque chose. Et jusqu'à présent, il n'a pas dit un seul mot. Je pense qu'il y a des choses, la crise économique et la crise sanitaire. Je pense qu'il y a des problèmes beaucoup plus sérieux sur lesquels il devrait se focaliser plutôt que de faire des remaniements.
D'un autre côté, il y a les citoyens qui voient cette dissolution du gouvernement d'un bon œil. Pour Fama Diop, c'était nécessaire dans la mesure où l'équipe sortante montrait des limites dans beaucoup de domaines.
Jusqu'ici, on voit que dans le gouvernement, vraiment, il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent, à part peut-être au niveau des travaux publics et ces genres de choses-là, je vois que ça bouge. Mais à part ça, je vois pas les autres secteurs bouger, honnêtement, côté économique. Voilà, côté relance de l'économie, après le Covid, je vois absolument rien de tout. Donc, je crois que c'est normal ce qu'il a fait. Parce que si, à mon avis, si j'étais à sa place, je le ferais. Parce que je vois pas les choses bouger du tout. Voilà. Peut-être d'une certaine manière, il cherche peut-être à résoudre des problèmes.
Cher Labou pense qu'il ne faut pas changer juste pour la forme. Pour lui, il est important de mettre des hommes et femmes capables de faire face aux défis du moment.
Quand on parle de remaniement, c'est pas tout simplement le fait de changer une équipe, mais au-delà de l'équipe, des personnes qui seront changées, mais il y a également cet aspect qui est très important, qui est la question de l'apport des compétences et de l'orientation. Et je pense que si réellement le remaniement là est posé, je pense que ça peut apporter quelque chose par rapport aux priorités présentes du présent. Maintenant, reste à voir est-ce que les bonnes personnes seront choisies.
Au-delà des spéculations, les attentes concernant le nouvel attelage gouvernemental sont très fortes du côté des citoyens. Pour eux, il est important que le président de la République mette en place une équipe avec des personnes capables de répondre aux besoins des populations. À Dakar, Seydina Bagui pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Les enseignants togolais ont démarré leur année scolaire ce 26 octobre par une rentrée pédagogique et administrative, un paramètre inédit à prendre en compte, le respect des mesures barrières pour se mettre à l'abri de la COVID-19. Les enseignants, la rentrée scolaire et la COVID-19, un reportage de notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
La peur se lit sur les visages de ces enseignants qui se préparent à entamer une année scolaire assez particulière. Particulière car la COVID-19 est aux aguets. La situation étant volatile, la panique s'invite rapidement.
C'est la peur au ventre. Alors si c'est que on ne pense pas à l'avenir des jeunes, je ne pourrais pas reprendre cette rentrée.
Il faut dire qu'on est tout le temps exposé à la maladie. Sinon, il y a la peur, il y a une petite peur, mais on va faire de notre mieux pour respecter et faire respecter les mesures barrières, ce qui va empêcher d'attraper la maladie.
Tout d'abord, que Dieu nous protège. On n'a pas tellement peur. C'est pour éviter la contamination que nous sommes en train de mettre des mesures en place.
Franchement, on a peur. Quand je viens à l'école, j'ai des contacts avec mes collègues, avec mes élèves. Je dis, je peux rentrer à la maison avec cette maladie et contaminer mes enfants, mon épouse. On a peur, mais c'est Dieu qui nous protège.
Elom Kossi Togbe, enseignant d'histoire et géographie au collège, est l'exception qui confirme la règle. Contrairement à ses autres confrères, c'est tout excité que ce jeune enseignant, la trentaine à peine, attend le 2 novembre.
C'est avec joie qu'on veut reprendre l'année académique 2020-2021. Depuis mars, c'est un moment très très difficile pour nous qui sommes les professeurs. Donc c'est une joie pour moi qu'on reprenne le chemin de l'école. Si bien que la COVID-19 est là, moi personnellement, je n'ai pas peur.
Comme partout au monde, les établissements scolaires comptent miser sur les mesures barrières en renforçant la sensibilisation des élèves.
On va les sensibiliser plus. Nos enfants, ils sont un peu durs d'oreilles, mais on s'est préparé. Les conseils à donner aux enfants pour qu'ils respectent les mesures barrières.
Nous allons reprendre les classes. L'état d'esprit dans lequel nous nous préparons, c'est un esprit de sérénité parce que la pandémie, elle est là, le virus, il est là et nous devons vivre avec. Alors, sensibiliser mes apprenants pour respecter les mesures barrières pour ne pas laisser se contaminer par ce virus.
Quand nous rentrons dans les classes, nous allons premièrement rappeler les gestes qui peuvent nous sauver parce que nous sommes là pour les aider à mieux comprendre la nécessité de respecter les mesures barrières.
La sensibilisation ne doit pas prendre le pas sur la rigueur, préviennent-ils.
Au portail, si vous n'avez pas votre cache-nez, si vous ne vous lavez pas les mains, vous ne serez pas admis à l'établissement, vous n'entrerez pas.
Nous serons très exigeants sur les mesures barrières. Dans la classe, dans la cour de l'école, nous serons vraiment très exigeants.
Malgré la situation sanitaire préoccupante, les enseignants du secteur public ne perdent pas de vue les revendications salariales comme le rappelle cet enseignant officiant dans une école primaire publique et qui a requis l'anonymat.
Nous, enseignants, on a des demandes au niveau de l'État. Les syndicats, les fédérations se mobilisent. Il y a déjà eu des échanges avec le gouvernement. Il y a eu des promesses, donc nous attendons. Ici, il s'agit des revendications en matière salariale, c'est-à-dire des primes de la fonction. Donc, nous demandons à l'État de satisfaire pour que la rentrée soit apaisée. Pour l'instant, tout n'est pas encore réuni. On attend les derniers regards de l'État. Donc, nous sommes dans l'attente.
Si les négociations entre le gouvernement et le corps enseignant achoppent, beaucoup d'analystes redoutent un énième bras de fer entre les deux protagonistes, ce qui pourrait porter un coup dur à l'année scolaire déjà fragilisée par la crise sanitaire. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
L'élection présidentielle américaine ne laisse pas les Camerounais indifférents. La campagne électorale, les débats télévisés sont suivis sur place de près à travers différentes plateformes. La jeune génération qui croit au rêve américain ne cache pas sa préférence pour un candidat favorable au flux migratoire. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Corinne et Jean-Marc sont tous deux étudiants en pétrochimie à l'Université catholique Jean-Paul II à Yaoundé. Ils manifestent un intérêt particulier pour la prochaine élection présidentielle américaine. C'est avec beaucoup d'attention qu'ils suivent la campagne électorale et notamment la question de l'immigration, telle que soutenue par les candidats Donald Trump et Joe Biden.
Nous voulons une personne qui va permettre à celles qui veulent connaître la technologie là, de pouvoir entrer aux États-Unis. Et pour ça, je pense que le candidat Donald Trump n'est pas la personne indiquée.
Il devrait prôner l'immigration pour permettre aux jeunes Africains ou Camerounais, s'ils veulent peut-être aller continuer les études, cela pourrait beaucoup les aider.
Aristide est un étudiant en informatique à l'Institut supérieur Sciences Po. Il a regardé Magdalene tardive, les deux débats télévisés mettant aux prises Donald Trump et Joe Biden. C'est ainsi qu'il a, selon lui, pu se faire une idée des priorités des deux adversaires durant leur prochain mandat.
La position de Donald Trump est beaucoup plus axée sur la puissance américaine. Il cherche à écraser l'évolution des autres puissances, que ce soit occidentales, asiatiques et autres. Joe Biden, lui, il est beaucoup plus axé sur les questions de famille. Il a profité des émeutes qu'il y avait la dernière fois avec l'assassinat du Noir et du Covid, même en quelque sorte. Parce que toutes les analyses montrent que Donald Trump a complètement échoué sur la question de la maîtrise du Covid-19.
Un mouvement de soutien au président Donald Trump, baptisé Trump African Supporters, existe depuis 2015 et est dirigé depuis le Cameroun par André-Marie Dibamo. Il est auteur d'un récent ouvrage intitulé « Le phénomène Trump et l'effondrement de l'ordre établi ». André-Marie Dibamo, président de la Trump African Supporters.
Malgré la pandémie de la Covid-19, le président Trump continue littéralement de séduire, malgré son âge, malgré le Trump bashing et tout ce que vous pouvez imaginer, il continue de séduire, y compris en Afrique, y compris dans la communauté noire. Il vous souvient notamment qu'il a bénéficié d'un soutien inattendu de Sarah Sanders, qui a littéralement consacré un ouvrage de 400 pages sur la vie de Donald Trump.
Cependant, certains clichés, comme l'âge avancé des deux candidats à la course pour la Maison Blanche, laissent les Camerounais interrogateurs sur le rajeunissement de la classe politique américaine.
On a pour habitude de dire qu'en Afrique, ce sont des vieux qui dirigent aux États-Unis. Quand on regarde aussi également l'âge des candidats de ce côté-là, on se dit peut-être que la jeunesse aurait peut-être son mot à dire pour la suite des événements.
On voit ce pays qu'on pense, ils sont des modèles pour nous, faire aussi pareil si on se pose la question que le pouvoir est gouverné uniquement par les vieux.
Les Camerounais sont impatients de voir la nature des relations diplomatiques entre Washington et Yaoundé lors du prochain mandat. Au cours du précédent, les rapports entre l'administration Trump et le régime de Yaoundé ont été parfois tendus sur les questions de droits de l'homme et de la crise anglophone. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
VOA Afrique vous invite à suivre toute l'actualité sur les élections américaines 2020 et la course à la Maison Blanche. Des reportages, des analyses, des témoignages et des éditions spéciales qui vous font vivre tous les jours et en temps réel le déroulement de la présidentielle américaine du 3 novembre. Vous pouvez aussi participer à la conversation et réagir depuis votre pays. Le président Donald Trump sera-t-il réélu? Le démocrate Joe Biden
jeune pourra-t-il gagner face à son rival républicain? Rendez-vous sur votre fréquence de VOA Afrique et sur nos stations partenaires. Retrouvez également les sujets traités sur votre site voaafrique.com et sur Facebook.
C'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.